n'oublions pas, nous sommes à votre service. Retour ce matin sur la couverture médiatique des attentats du 22 mars. Vous avez réagi tout au long de l'émission. Voici le moment des réponses. Marie-Vanne Kutsem, nous recevons notre patron Jean-Pierre Jacquemin, le directeur de l'information de la RTBF.
Bonjour Jean-Pierre Jacquemin.
Bonjour.
Alors beaucoup de réactions ce matin et un sentiment qui revient beaucoup, c'est celui d'un trop-plein d'informations. Écoutez Albert, il nous a appelé Ducle.
Émission spéciale pour la télé, en édition extraordinaire des radios et des journaux. Nous avons été gavés d'informations répétitives et excessives qui ont finalement créé un véritable climat de psychose. Il faut à présent que les médias mettent la pédale douce, car le risque de créer un climat de haine entre les communautés, ce risque se dessine déjà à Molenbeek. Calmons-nous.
Alors, pourquoi tant d'émissions spéciales et d'informations continues? Est-ce que l'RTBF a eu peur de ne pas en faire assez?
Non, je ne pense pas. Je pense clairement que les événements que nous avons vécus le 22 mars à 7h58, à 9h11, toute une série d'enchaînements d'événements qui ont eu lieu dans la journée après cela, nécessitaient qu'une partie de nos programmes, pas tous nos programmes, notre chaîne, c'est-à-dire d'information de prédilection qui est la première, la une en télévision, consacre l'essentiel de leur programme à cet événement, qui est un événement énorme. C'est-à-dire, nous avons été meurtris. Dans notre pays, dans nos rames de métro, dans notre aérogare, que des attentats ont lieu, qui ont tué de nombreuses personnes, qui ont fait des centaines de blessés, qui ont touché énormément de familles. Et puis, derrière cela, derrière cet événement-là, que nous donnons avec les précautions d'usage dès le départ, sur base des informations que nous avons, nous devons aussi aller plus loin dans l'information, chercher la réalité des choses. Qu'est-ce qui s'est réellement produit? On vous parle d'une explosion d'abord vers 8h15, et puis après on se rend compte que c'est un attentat, puis on apprend une deuxième explosion, on apprend le métro. Tout ça nécessite, selon nous et selon les valeurs éditoriales, le contrat de gestion de la RTBF, de prendre l'antenne et d'être, j'allais dire, aux côtés du public pour l'événement. J'entends le monsieur qui dit que c'est anxiogène. Je pense que l'actualité était anxiogène, que la réalité des choses était anxiogène. Peut-être aussi que la gestion de cette crise a été anxiogène. Vous savez, vous étiez là, vous avez vu les choses comme nous. On annonce des attentats, après il y a une gestion, il y a une mise à l'arrêt des transports en commun, il y a une demande par exemple du centre de crise en fin de matinée de dire aux gens restez là où vous êtes, restez chez vous, il y a des difficultés de circulation, toute une série d'événements, il y a les réactions du monde politique, du monde judiciaire, qui sont dans un moment particulièrement fort, qui arrive quand même très peu souvent. Je n'ai jamais vécu, moi, 30 ans de carrière dans cette maison-ci, un tel événement pour nous.
Alors, Léon Parcouriel avait une hypothèse à ce sujet de trop-plein d'infos. La RTBF est soumise, nous dit-il, comme les autres chaînes, à la concurrence. Il faut garder le téléspectateur ou l'auditeur sur nos chaînes. Alors, c'est peut-être un peu cynique, mais bon, il ne faut pas être naïf non plus. Est-ce que c'est effectivement une donnée à ne pas négliger?
Alors, nous ne regardons pas et nous n'écoutons pas RTL pour décider si nous allons maintenir ou pas maintenir un programme. Nous faisons les émissions que nous pensons devoir faire. Nous amenons autour de la table des experts, des personnes qui peuvent tenter d'éclairer le débat. Et nous en apportons, c'est vrai, plusieurs, pour avoir davantage de points de vue. Nous ne laissons pas la parole à un ou deux seulement experts. Nous avons des informations, nous avons une équipe complète que nous avons mis en place depuis plusieurs mois, qui est une équipe de journalistes d'investigation au sein de la rédaction quotidienne, 6 personnes qui check, analyse, vérifie, recoupe, tenter plus des informations. Et donc, je ne sais pas ce que font les autres par rapport à nous. Je sais que nous faisons ce que nous sommes.
Alors, pour éviter le trop-plein et le côté anxiogène, Béatrice sur Facebook, qui s'est essentiellement informée en radio, suggère, et ce n'est pas la seule, de faire des flashs infos précis et réguliers dans ce genre de cas, mais entre les coups de remettre de la musique ou les programmes habituels. Alors, un auditeur nous dit aussi sur Twitter que le site du Times à Londres a pris cette option, 3 éditions internet par jour, pas plus, stop aux alertes continues. Est-ce que c'est envisageable de repenser la manière de faire ou bien on doit continuer à rester dans des éditions spéciales, dans de l'information en continu?
Nous ne sommes pas restés dans des éditions spéciales et dans de l'information en continu tout le temps. Mais nous avons estimé qu'à certains moments, nous devions être là en présence en permanence. Et puis nous avons estimé, à d'autres moments, en soirée par exemple, de renforcer nos flashs aux demi-heures. Nous avons également décidé d'avoir un accompagnement renforcé de nos publics la nuit sur la première. Nous avons mis un certain nombre de points en place. Notre but n'est pas d'alimenter sans cesse et non-stop l'antenne. Mais je peux vous dire que si nous avions, à un moment dans la journée du 22 mars, dit « nous repassons à un programme classique », eh bien nous aurions failli dans notre mission d'information, parce que des informations importantes, essentielles, devaient être données à ce moment-là, et il fallait que nous soyons à l'antenne, je pense, à ce moment-là. La radio a ceci de formidable, c'est qu'elle peut à la fois annoncer les faits, et je vous ai dit tout le travail que nous menions pour que les faits que nous donnions à l'antenne soient certifiés, recoupés, vérifiés, et également la possibilité de permettre par le débat, l'analyse, le commentaire, de remettre assez rapidement les choses dans le contexte. Et je trouve que cela a été bien fait à la RTBF.
Il est 8h50, notre invité ce matin est le directeur de l'information de la RTBF, Jean-Pierre Jacquin. On parle du traitement médiatique des attentats. Et Marie, on va parler de ce que certains considèrent comme une chasse aux scoops.
Oui, Patrick réagit à propos d'une expression utilisée sur nos chaînes. Il s'agit de info exclusive RTBF. Patrick nous dit, claironner ça dans de telles circonstances, c'est fort déplacé. Qu'est-ce que vous répondez à notre auditeur, Jean-Pierre Jacquin?
Je pense que dans l'ensemble du tri de l'information, on peut revenir sur le mot exclusif, qui n'est peut-être pas le plus utile dans ces moments-là. Mais dans un moment comme celui-là, où il y a des rumeurs qui partent, où il y a des informations qui sont données parfois par d'autres médias, parfois en avance de temps, avec une capacité qu'eux ont eue d'avoir une information avant nous, ou parfois en commettant des erreurs, ce qui peut arriver à tout le monde, dire « c'est une info RTBF », c'est certifier que l'information est venue à la RTBF, qu'elle a été recoupée, certifiée, et que quelque part nous nous engageons auprès de notre public pour leur dire, cette information-là, sur les bases de nos critères journalistiques et déontologiques, elle est sûre.
Alors, plusieurs auditeurs se demandent, comme Dirk, si les médias ne donnent pas trop de détails, si ça ne risque pas d'informer les terroristes pendant une perquisition, par exemple. Comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre à ce niveau-là? Est-ce qu'en interne, ici, il y avait une procédure de décision pour savoir ce qu'on allait donner à l'antenne ou pas?
Oui, depuis le temps que tous ces événements arrivent, nous avons depuis quelques années ce qu'on appelle une agence interne à la RTBF, que nous avons augmenté le potentiel de travail les derniers mois, qui est un endroit où à la fois on peut recouper des informations et on peut faire en sorte que des informations qui sont jugées valides par nous soient transmises à l'ensemble des médias. Sur les détails, c'est un vrai débat. Il faut savoir que lors du fameux week-end de lockdown, quand Bruxelles a été mise à l'arrêt, il y a eu le dimanche soir une énorme perquisition qui s'est mise en place. Et nous avons eu des contacts directs avec les autorités du centre de crise qui nous ont demandé de ne donner aucune information sur les perquisitions. C'est impossible.
Avec les petits chats d'ailleurs qui ont circulé à ce moment-là. Oui, tout à fait.
Je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Les gens de Bruxelles savaient, quand des hélicoptères volent dans le ciel, quand des camions de gendarmerie partent dans tous les sens, ou de police fédérale, excusez-moi, je date un peu, de police fédérale se déploient, que des gens nous interrogent aussi. Qu'est-ce qui se passe dans mon quartier? Nous sommes, je pense, si l'information est recoupée, en droit de la donner. Maintenant, nous avons pris des précautions à ce moment-là, pour les moments en direct, de veiller à ne pas donner les noms des rues, des quartiers, des endroits où les choses se passaient précisément, mais donner le nom des communes. C'est une politique que nous avons menée, ça s'est passé en radio, en télévision, on a serré davantage sur le visage des journalistes qui étaient présents sur place, afin de ne pas donner de détails. Et nous avons eu, cette fois-ci, nous avons commis une erreur, à un moment...
Avec une plaque de rue, là.
Une plaque de rue est apparue, non pas comme certains ont pu le penser, dans un gros plan volontaire, mais dans un panotage, comme on dit en télévision, afin de montrer qu'il y avait du monde autour. Bon voilà, c'est une erreur que nous avons commise, on s'en excuse, c'était un moment de direct. Mais ce que je tiens quand même également à dire, c'est qu'il est important que les journalistes soient là au moment où des événements se passent, quand ils en ont connaissance, parce qu'il s'agit de témoigner de la manière dont les choses se déroulent, de voir exactement ce qui se passe. Nous devons évidemment relater les résultats des enquêtes, mais nous devons aussi, dans notre métier, vérifier comment se font ces perquisitions, sur quel tempo, avec quel quel rythme, parfois quelle violence, c'est le rôle du témoin, du journaliste, de ce qui se passe.
Oui, et puis informer les gens, évidemment, qui vivent dans ces quartiers-là. Alors, il y a eu des rumeurs, des informations erronées qui ont circulé via les réseaux sociaux. Après l'explosion à Zaventem, par exemple, on a vu cette vidéo d'une explosion dans un aéroport russe qui a circulé. Est-ce que les médias traditionnels, comme la RTBF, ont un rôle à jouer par rapport aux médias sociaux ? Démystifier, déconstruire, par exemple, de telles rumeurs ?
Le premier rôle, c'est d'abord d'informer nos publics, ceux qui nous font la confiance de nous écouter ou de nous regarder, de nous lire sur notre site internet. On ne doit pas se mettre en réaction des rumeurs.
Mais ces rumeurs, elles sont là, elles touchent les gens.
On est bien d'accord, mais je ne pourrais pas faire des émissions en étant simplement en train de démentir ce que des gens qui n'ont pas les compétences journalistiques habituelles balancent sur le web. Maintenant, quand ça prend une proportion importante, je vais vous donner un exemple. Dans l'après-midi du 22 mars, on a eu des informations comme quoi il y avait des explosions dans le quartier des universités VUB, ULB. C'est une première chose qu'on a eue. On s'est dit, avant de le donner, avant de créer un effet de panique supplémentaire pour le quartier, essayons de savoir ce qui s'est passé. On a appris à ce moment-là que c'était une opération de déminage. On a fait sauter un colis qui paraissait suspect pour des démineurs. Bien voilà, ça c'est une manière de démentir une rumeur qui circulait, attentat du côté des universités, ce n'était pas le cas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre, et nous ne sommes pas équipés pour ça, en observation permanente de tout ce qui se tweet, se révèle sur Facebook, Instagram et autres, mais nous devons essayer d'être vigilants, certainement, pour que notre rôle, c'est de dire une information a été donnée, c'est une équipe de journalistes qui peuvent parfois commettre des erreurs, on n'est pas infaillible, mais c'est une équipe de journalistes professionnels qui travaillent ensemble et qui recoupent leurs informations.
Il nous reste quelques secondes et je termine en disant que je vous ai soumis ici des critiques, des questions, mais il y a aussi eu des remerciements et des félicitations pour le travail accompli. Et pour cela, on remercie évidemment aussi nos auditeurs pour leur message.
Bien sûr, merci. Et juste un mot pour dire, nous allons également faire des débriefings. Nous discutons en rédaction sur ce que nous avons fait, sur ce que les auditeurs nous envoient comme message. Et la réflexion, elle est permanente et elle va se continuer. Et on va, bien sûr, comme nous avons tiré des leçons sur ce qui s'est produit auparavant, tirer des leçons sur ce qui s'est produit cette fois-ci. Mais je peux vous dire que la manière dont nous avons évolué a grandement changé déjà avec l'expérience que nous avons de ces opérations spéciales qui ne sont pas dans le but de faire des opérations spéciales, mais qui sont le but de rendre compte de l'événement.
Et d'être au service de vous qui nous écoutez chaque matin. Dans un instant, on retrouve Alex Vizorek. Vous restez là, Jean-Pierre Jacquemin.